Bonsoir à tous ceux que j'ai pas dit bonsoir. Alors je vais vous raconter un témoignage, bon le mien, ce que Dieu a fait dans ma vie et comment je suis arrivé à croire en ce Dieu qui est là, qui est bien présent. Alors tout a commencé depuis que je suis né, hein. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père il est pasteur, donc depuis tout petit j'entends prêcher, j'entends chanter, j'entends louer. À la gloire de l'Éternel, mais comme le disent tous les enfants hein, de chrétiens, c'est pas parce que on est né dans une famille chrétienne que l'on est chrétien. Donc j'ai entendu, je chantais, des fois même étant petit, il y avait des miracles qui se faisaient dans ma vie. Par exemple, il y a des moments où je perdais des choses et je priais, et je les retrouvais. Au moment où je priais, je les retrouvais. Le Seigneur m'a aidé aussi pour les études, étant petit, hein, parce que vous allez voir après le carnage. Les choses ont commencé. Et un jour, on a dû déménager. Alors avant, on était à Sarrebourg et on a déménagé à Agen. Mon père, il a travaillé là-bas et on a commencé à faire notre vie. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait pas d'église. Enfin, en tout cas, on recommençait l'église à zéro. Donc il y avait que nous, il y avait vraiment que la famille. Donc on se réunissait le dimanche matin et on faisait la réunion comme si c'était normal quoi. Mais nous, le problème c'est que c'était notre papa, on était dans la maison et des fois on a envie de faire ce qu'on veut. Et le problème c'est que moi dans mon enfance, je me faisais maltraiter parce que j'étais chrétien à l'école. Et là, c'était une nouvelle vie. J'avais une nouvelle chance d'être différent, d'être comme les autres. Donc, du coup, j'ai commencé à vivre ma vie. Je priais, je chantais, mais excusez-moi. Quand j'étais en dehors de ma maison, je faisais toutes les bêtises inimaginables. Et le temps a passé. Et, j'ai raté mes études. Donc, du coup, j'ai fait un CAP plomberie pour voir ce que ça allait donner. Alors j'étais dans la comptabilité avant, et donc vous voyez le décalage. Et le problème c'est que le patron, il était pas très gentil avec moi, il me faisait des misères. Même les employés trouvaient pas ça normal. Et à un moment, ce que j'ai fait, c'est je me suis retrouvé à une confrontation. Soit je faisais une grosse bêtise qui allait me rester toute ma vie, ou soit je partais. Et du coup, j'ai joué ça au pile ou face. Je me suis dit, voilà. Alors, même sans être chrétien, je parlais quand même à Dieu. Je croyais qu'il existait. J'ai toujours cru qu'il existait. Du coup, je lui ai dit, voilà, je vais jouer ma vie au pile ou face. Et j'ai joué et le destin, Dieu, enfin le pile ou face a permis que je parte. Donc, je suis parti. J'ai laissé tout en plan. J'ai donné aucune nouvelle à ma famille, à mes parents, à mes frères et sœurs, à personne. Et je me suis retrouvé tout seul à 18 ans dans la rue. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, tu dis que tu existes. Regarde où je suis. Aide-moi. Et le Seigneur, il m'a aidé. Alors, je vais vous expliquer comment. Alors, j'osais pas revenir chez mes parents parce que je me suis dit, ça va mal se passer. Donc du coup, j'ai essayé d'y aller. J'ai essayé, je me suis dit, j'ai mon frère et ma sœur qui habitent à Bordeaux. Donc du coup, je vais essayer d'y aller. Mais le problème, c'est que j'avais pas d'argent. J'avais rien. Donc du coup, je me suis dit, ah, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit, pardon, et qui me dit, la banque. Donc je suis allé à la banque. Et je suis allé voir la dame au guichet. Je lui ai dit, bonjour, je voudrais retirer de l'argent. Elle m'a dit, très bien. Est-ce que vous avez une carte d'identité? Je lui ai dit, non. Vous avez un permis de conduire? Non. Vous avez au moins quelque chose pour prouver que vous êtes bien celui que vous prétendez? Je lui dis non. Elle dit, je suis désolé, je peux rien pour vous. Donc du coup, je suis reparti. Et là, il y a une pensée qui m'a dit, la dame qui t'a reçu il y a quelques mois, va lui parler. Donc je suis allé lui parler et elle s'est portée garant pour moi et j'ai pu retirer mon argent. Je peux vous garantir que c'est quelque chose qui ne se fait pas d'habitude, hein. Et du coup, avec cet argent, j'ai pu prendre le train et je me suis retrouvé à Bordeaux. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où Marianne et Pierre, lui, habitent. Donc du coup, je me suis dit, avec le peu d'argent qui me reste, voilà ce que je vais faire. Je vais me connecter, je vais me créer un compte Facebook et je vais demander Marianne en ami. Pas Pierre, lui, Marianne. Et si elle répond, Je rentre à la maison. Si elle répond pas, je pars, je me débrouille, je disparais. On n'a plus de nouvelles de moi. Je me suis connecté et au moment où je me suis connecté, Marianne, elle m'a ajouté en ami. Enfin, je l'ai demandé en ami, elle m'a directement accepté. Alors là, je vais vous raconter une partie. Là, du coup, c'est la partie de Marianne. Vous pourrez lui demander, hein, comme ça. Hein. Elle était de l'autre côté, elle était de l'autre côté de l'écran, elle était dans sa chambre d'étudiant avec sa copine et elle était en train de pleurer parce que ça faisait un ou deux jours que j'étais pas là et elle savait pas ce que j'étais devenu. Et à un moment, elle s'est dit, je dois aller sur Facebook. Alors sa copine, elle le regarde, elle dit, mais pourquoi tu dois aller sur Facebook? Elle dit, je sais pas, mais je dois aller sur Facebook. Et au moment où elle est sur Facebook, c'est le moment où je l'ai demandé en ami. Donc je remercie le Seigneur pour ça, mais j'ai le cœur dur. Donc moi, j'ai continué dans l'état où j'étais. Donc je suis revenu à la maison et du coup j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Hein. Bonjour, bonsoir, bonne nuit et je me suis couché. Et donc mes parents ils m'ont fait dormir, ils m'ont donné à manger comme si rien ne s'était passé. Et mon cœur a commencé à m'accuser. Donc du coup je suis allé voir mon père et je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, c'est bien, tu m'as demandé pardon à moi, mais est-ce que tu as demandé pardon à ta mère? Et je lui ai dit non. Et j'ai réfléchi en moi-même et je me suis dit, purée, ah, c'est ma maman, elle-même, je vais pas lui demander pardon quand même. Et ça a travaillé, le Seigneur, il travaillait mon cœur, il travaillait mon cœur. Et à un moment, j'arrivais plus à rester tranquille. Et je lui ai dit, Seigneur, je peux pas lui demander pardon, j'ai trop d'orgueil. Donc, je veux, Seigneur, que tu me montres si je dois lui demander pardon. Et cette nuit-là, le Seigneur m'a donné un songe. Excusez-moi. Je me suis vu dans une sorte de boule de verre et je voyais la terre au loin. Et derrière moi, il y avait un vieillard qui avait, enfin un vieil homme, qui avait construit plusieurs maisons. Et je vous épargne les détails. Je savais que cet homme, c'était Dieu. Donc je suis allé le voir. Je lui ai dit, comment je fais pour aller au ciel? Il m'a dit, bah, c'est tout simple. Il suffit d'avoir ton nom inscrit sur la maison et le livre. Donc je suis allé voir ma maison et il y avait bien mon nom inscrit. Donc je suis allé voir le vieil homme et je lui ai dit, voilà, mon nom est inscrit. Il m'a dit, très bien, est-ce que tu as le livre? Je lui ai dit, bah non, j'ai pas le livre. Il m'a dit, bah c'est l'enfer. Et là, tout est devenu noir et j'ai vu un chemin qui se traçait. Et je savais que ce chemin-là, il menait en enfer. Et donc je l'ai pris parce que j'avais pas le choix. Je l'ai pris. Et j'ai vu une fosse qui en escalier quoi. Et à l'intérieur, il y avait des gens, ils souffraient et ils pouvaient pas mourir. Ils essayaient de mourir, mais ils n'y arrivaient pas. Ils faisaient que souffrir. Et je me suis dit, bah c'est là que je vais vivre l'éternité. Et je me suis réveillé. Et j'ai compris que le livre qui me manquait, c'était le pardon. Donc je suis allé voir ma mère, je lui ai demandé pardon. Mais on est encore dur. Donc le Seigneur, il m'a permis de reprendre les études quelques mois après. Et après avoir repris les études, le Seigneur m'a donné mon bac. Alors, je vous explique, hein, moi, j'ai jamais lu de livre de ma vie. Moi, franchement, les romans, les livres, ça me sort par l'oreille. Et du coup, pour le bac de français, il faut lire un certain nombre de livres, il faut avoir une culture générale. Et après, on vous pose des questions. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur que ça tombe sur le sujet que je voulais. Le bac blanc, le sujet que je veux. Je demande au bac, le Seigneur, le sujet que je veux, je tombe pas dessus. Mais je tombe encore mieux. Je tombe sur un sujet que je connaissais encore mieux. Donc j'ai eu 18 à mon bac de français. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Il m'a donné aussi le bac avec une mention. J'étais le premier de la famille à l'avoir, hein, lui dites pas. Et donc voilà, donc merci Seigneur. Le Seigneur, franchement, il agit. Et le Seigneur, il me fait aller à Lille pour les études. Mais le problème, c'est que, comme d'habitude, hein, c'est pas parce qu'il y a des miracles dans notre vie qu'on est sauvé. Hein. Moi, je vivais toujours ma vie. Et le Seigneur, ben, il a été là parce qu'à un moment, j'ai vécu une tristesse. Une tristesse, je peux pas vous la décrire, mais en tout cas, j'étais tellement triste que je pouvais plus pleurer et je voulais mourir. Mais le problème, c'est que je savais que si je mourais, bah, j'allais en enfer. Donc je lui dis, Seigneur, tue-moi parce que je peux pas moi-même. J'étais triste. Et je me suis rendu compte que le seul appui que j'avais, c'était Jésus. Donc j'ai commencé à mettre des chansons, à chanter, à prier, à demander pardon. Et je peux vous garantir que cette paix, je l'ai eue. J'ai été en tranquille, j'étais en paix. Alors j'étais quelqu'un, j'étais angoissé. Le soir, dans ma chambre, je voyais des ombres blanches et des ombres noires. Je voyais des ombres noires qui me rentraient dedans. Et je voyais des ombres blanches qui me donnaient des sensations de mort et qui me regardaient. Bah, je suis allé voir le pasteur, j'ai confessé mes péchés. Parce que je faisais de l'occultisme, j'ai fait des choses qui me font honte, et je peux vous garantir que ces ombres-là, je les ai plus vues. Le Seigneur m'en a délivré. Et là, le Seigneur, là, j'avais du mal à trouver du travail. Le Seigneur, il m'a donné le McDonald's. Bon, alors, on va dire, ouais, c'est pas un gros boulot, mais c'est un boulot où je me sentais bien. Les gens étaient gentils pour moi. Et ensuite, le Seigneur m'a dit, tu viens à Chalon. Je lui dis, bah, pourquoi? J'ai un boulot, j'ai tout ce que je veux, j'ai ma vie. Il me dit, non, tu viens à Chalon. Donc, je suis venu à Chalon. je me suis retrouvé sans travail. Du coup, je dis, Seigneur, j'en ai marre. Alors, un mois est passé, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. À un moment, j'avais aucune rentrée d'argent. J'ai commencé à me plaindre, hein, comme d'habitude, hein, excusez-moi. Je suis parti. Je suis parti de la maison, je suis parti, j'ai laissé Marine et Pierre. Je lui dis, écoute, j'en ai marre, je me casse. Encore une fois, hein. Et le Seigneur, il m'a rappelé à lui. Et au moment où je suis rentré à la maison, on m'a appelé. Enfin, le lendemain, je me suis endormi. Le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, j'ai un travail pour toi. Et du coup, j'ai eu un travail. Et je remercie le Seigneur parce que même encore aujourd'hui, il m'aide malgré le fait que, vous savez, je suis pas meilleur que vous, hein, je suis même le pire. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous garantis que le Seigneur, si vous mettez les genoux à terre, il fera les mêmes choses, voire mieux que moi. Alléluia, Amen.
Alléluia. Et après, on entendra le témoignage de Rosalia. Voilà.
Bon, bah, bonsoir à tous. Ça fait drôle. Alors, en fait, mais contrairement à Paul, moi, en fait, je n'ai pas grandi dans une famille très religieuse. En fait, je viens de Serbie, à cette époque-là où moi je suis née, c'était pas très populaire, on va dire. Donc, du coup, j'ai connu un petit peu l'église orthodoxe du côté de ma mère et du côté de mon père, c'était un peu des catholiques, mais bah, on ne pratiquait pas vraiment. Voilà, à part marquer Noël et des choses comme ça, mais il n'y avait pas de culte, il y avait pas, je ne connaissais pas grand-chose. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de superstitions, ce qui fait que bah, j'ai plongé dans tout ce qui est occulte, ésotérisme, etc. On pratiquait beaucoup de choses, notamment le spiritisme, qui m'a fait beaucoup de tort parce que j'ai failli laisser ma peau. Quand je sais plus quel âge j'avais, je sais pas, 18 ans, 19 ans, ben, j'ai failli mourir parce que je pense que ben, dû aux choses qu'on a fait, en fait, je me suis sentie très très mal. En fait, c'est une sensation d'un terrible vide intérieur, en fait, où se fêter qu'une chose, c'est mourir, quoi. Dieu merci, Seigneur, il m'a sauvée. J'étais vraiment partie pour me laisser ma peau, quoi. Seigneur, il m'a gardée, il m'a sauvée. Bon, après, je ne me suis pas tout de suite tournée vers la recherche de Dieu. J'ai jamais lu la Bible jusqu'à ce moment-là. Mais quelques temps après, en fait, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus toquer à notre porte. Et c'est par ce moyen-là que j'ai connu un peu la Bible. On en avait une à la maison, mais je me suis pas jamais vraiment penchée là-dessus. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert, par le biais d'études que j'ai fait avec eux, qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était très mal et c'était très dangereux. Donc, j'ai arrêté ce genre de choses. On a tout arrêté. Par la suite, en fait, bon, j'ai jamais pu m'engager avec eux. C'est vrai que j'avais fait une étude, mais je sentais qu'il y avait quelque chose me gênait. Parce qu'au bout d'un moment, ils commencent un peu à vous pousser vers un engagement, et pour moi, ça me bloquait complètement, en fait. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec eux. Alors, après cela, il y avait un laps de temps. Ensuite, je me suis mariée, je suis venue en France. Et puis, ben, je ne me suis pas intéressée du tout au côté spirituel. Ça a été un peu mis de côté. Et c'est il y a quelques années en arrière où j'ai commencé de nouveau à ressentir ce besoin de chercher une vérité, en fait. Et j'étais déçue, en fait, par les témoins de Jéhovah. Et là, je me suis dit, mais en fait, personne ne connaît la vérité. C'est ce que je me suis dit dans mon cœur. Personne ne sait. Les hommes, en fait, Qui connaît la vérité, en fait? C'est ce que je me suis dit. J'étais un petit peu déçue. Alors, du coup, j'ai commencé à chercher un peu les réponses de côté de tout ce qui est les croyances un peu occidentales, tout ce qui est taoïsme, bouddhisme, etc. et autres ismes. J'ai un peu touché à tout ça. J'étais pareil. En fait, je commençais de nouveau, en fait, à m'enlisser vers des choses assez ésotériques, en fait. On glisse très facilement hein, quand ça s'intéresse à ces choses-là. Donc, j'ai commencé de nouveau à glisser dans l'ésotérisme. Et puis, en fait, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. J'ai plus mes parents et j'ai perdu mon frère en, je sais plus, c'est 2017. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'était très, très compliqué dans ma vie pour plusieurs raisons. Et j'ai commencé à vraiment ressentir besoin de m'approcher de Dieu. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai senti son appel. C'était vraiment c'était quelque chose de très très beau en fait. C'est comme une sensation en fait où vous avez l'impression que vous n'avez pas une maison ici en fait. Il y a quelque chose ailleurs. Il y a quelque chose. C'est très très beau. Hein. Et puis à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé un peu à prier, j'ai commencé un peu, j'allais un peu de nouveau chez les catholiques, mais je trouvais pas la paix, je trouvais pas le bonheur, voilà, tout simplement. Et puis, il était arrivé le confinement, en fait, voilà, il était arrivé Corona, et pour moi, c'était un moment, je vais me faire ruer, pour moi, c'était un moment béni, parce qu'en fait, j'ai pu faire une pause dans ma vie. Déjà que je me disais, mais en fait, c'est en vain, on court en vain, on va courir chercher l'argent, on va courir travailler. En fait, tout ça, on ne sait pas où on va, en fait, on ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Et j'avais besoin de ce moment de pause, de me poser des vraies questions, des bonnes questions sur la vie, sur questions existentielles, en fait. Et donc, pour moi, c'était un moment béni parce que je peux prendre une pause vraiment à lire la Bible. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu, beaucoup prié. Et j'avais demandé à Dieu qu'il me montre la vérité. J'avais demandé qu'il me montre. Je croyais qu'il existe, mais je ne fais pas confiance aux religions, je ne fais pas confiance aux catholiques, aux orthodoxes. Donc, je lui demandais vraiment qu'il me montre où est la vérité. Et en fait, comme ça, chemin faisant, en fait, j'ai commencé un peu à écouter des prédications de certains pasteurs protestants, etc., sur Internet. Et là, ça commençait à me parler tout doucement. Et je me suis dit, je vais voir s'il y a quelque chose, une église comme ça, dans notre petite ville ou dans la région. Et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis tombée sur les prédications enregistrées d'un pasteur de Reims, de l'église de mission de Reims, que j'ai entendu. Et j'ai écouté ses prédications. À partir de ce moment-là, je me suis dit vraiment, là, ça, c'est un homme qui sait ce qu'il dit, c'est l'homme de Dieu, quoi, voilà. Donc, dès que j'ai commencé à écouter, et puis, je dis, je vais aller là-bas. Je vais aller dans cette église. Et Reims, c'était un peu loin, donc je me dis, je vais regarder s'il y a quelque chose de plus près. Et puis, finalement, je suis tombée aussi sur les prédications en ligne de Daniel. Donc, du coup, j'étais très heureuse. Voilà, j'ai commencé à écouter ça. Et puis, dès que c'était le feu vert, dès qu'on pouvait venir, je suis venue pour entendre un petit peu les prédications. Et puis, voilà. Donc, c'était un peu chez moi, c'était un peu une recherche. Ça a duré quelques années, en fait. Et puis, maintenant, quand je reviens en arrière, je me dis que le Seigneur, il a commencé à travailler sur moi avant même que je vienne à l'église. Il y a vraiment des choses qui ont changé dans ma vie il y a déjà 3 ans en arrière. Et encore maintenant, aujourd'hui, quand je suis arrivée dans l'église, quand je suis venue au Seigneur, il m'a délivré de certaines choses certains péchés que j'avais en moi. Il m'a délivré de certaines emprises parce que comme je baignais dans l'occulte, il m'a délivré aussi de ces choses-là. Et puis, Surtout, en fait, c'est qui me donne une force que moi-même, je ne possède pas. Parce que, alléluia, gloire à Dieu, c'est vrai. Il me donne vraiment la force et la joie pour traverser chaque moment difficile. Hein. Il y a eu des choses compliquées dans ma vie, comme chez beaucoup de personnes. Et vraiment, Seigneur a été mon vrai, vrai, vrai soutien. Et aujourd'hui, je vois vraiment qu'il fait des belles choses pour moi. Il fait des miracles extraordinaires dans ma vie, sur mon enfant aussi. Parce qu'il a failli mourir il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Je sais que c'est Seigneur qui l'a sauvé, grâce à Dieu. Merci Seigneur. Donc vraiment, je vois vraiment de belles choses. Et puis la transformation aussi en moi. Tout à fait. Je vois tous les jours que je change de... Voilà. Alors je rends grâce au Seigneur. Et puis je voulais vous dire que je vous aime tous. Hein. Voilà, merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Hein. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes. Nous te remercions pour ce témoignage qui manifeste encore ta bonté, qui manifeste encore ton amour, Seigneur, la façon dont tu veux attirer à toi chacune et chacun, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit sa vie, son histoire, Seigneur. Voyons bien ton amour qui est là, manifesté, Seigneur. Et encore ce soir, c'est ce que nous voulons proclamer au travers de ta parole et ce que nous ne voulons pas manquer de faire. Merci pour le soutien, le secours de ton esprit, Seigneur, pour qu'il puisse en être ainsi encore, et que chacune et chacun puisse être puissamment béni par le moyen de cette parole de vie. Amen, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien, nous allons ouvrir en effet la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Nous allons lire un passage qui est bien connu de plusieurs, mais qui est toujours nouveau lorsqu'on veut bien l'examiner et le creuser de plus en plus. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, c'est le Seigneur, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !»« Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Nous relisons simplement les versets 22 et 23. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Amen. On va arrêter là. Hein? Voilà. Nous voulons parler aujourd'hui de la réception des pécheurs, de la façon dont Dieu reçoit les pécheurs. Et lorsque nous lisons cela, nous voyons que c'est vraiment une affaire qui est remplie de joie, et qui s'accompagne même, dans notre cas, on le voit, de musique et de danse. Vous savez, on parle souvent de la tristesse, de la conviction de péché, qui accompagne la repentance, qui accompagne la conversion, et c'est justement qu'on en parle. Mais il ne faut pas non plus négliger la joie remarquable et sainte qui accompagne le retour d'une âme vers le Seigneur. Hein ? Il y a une erreur qui est assez fréquente, qui consiste à croire qu'un homme doit passer par une longue période de désespoir, pour ne pas dire peut-être même de profonde dépression, avant de pouvoir trouver la paix avec Dieu. Mais dans notre parabole, nous voyons bien que le père semble vouloir raccourcir considérablement une telle période. Il arrête son fils en plein milieu de sa confession et avant qu'il ait pu demander, à être traité comme un de ses serviteurs, comme un de ses mercenaires, un de ses ouvriers, sa tristesse a été changée en réjouissance. Amen. Et ce n'est pas le désir de Dieu que le pécheur demeure longtemps dans une triste conviction de péché. Il y a quelque chose de mauvais qui les y fait demeurer. Peut-être qu'ils ignorent la grâce et la plénitude de Christ. Ou alors, ils s'attachent à des espérances de propre justice. Ou alors, peut-être, ils s'attachent encore à l'un ou l'autre de leur péché. Le péché, eh bien, se couche encore à leur porte. Et ce n'est pas l'œuvre de Dieu de maintenir le péché là. Hein. La volonté du Père Céleste, c'est que le pécheur repentant puisse immédiatement se tourner vers Christ, qu'il puisse trouver immédiatement le plein pardon et la pleine délivrance, qu'il puisse trouver immédiatement, entrer immédiatement dans la paix, dans la joie et dans le repos de Dieu. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Hein. Donc, la volonté du Seigneur, c'est que ceux qui se repentent se réjouissent très rapidement. Et nous voulons considérer ensemble maintenant, dans la suite de notre prédication, la joie qui est causée par le péché pardonné. Ça, c'est notre sujet. La joie qui est causée par le péché pardonné. Nous voyons que cette joie est triple. Déjà, c'est la joie de Dieu au sujet des pécheurs repentants. Ensuite, c'est la joie, bien sûr, du pécheur en Dieu, hein, lorsqu'il est revenu au Seigneur. Et puis, vous avez aussi la joie des serviteurs, parce qu'eux aussi se réjouissent, puisqu'il est dit « mangeons et réjouissons-nous hein ». Donc, ça veut dire que ça concerne plus que le fils et son père, comme d'ailleurs dans les deux paraboles précédentes que le Seigneur donnait, rappelez-vous, c'est celle de la drachme perdue, celle de la brebis perdue, hein, et là aussi ils étaient appelés, les amis, les proches étaient amenés à se réjouir également avec celui qui avait retrouvé sa brebis et celle qui avait retrouvé sa drachme perdue. Amen. Alors parlons en premier de la joie de Dieu au sujet du pécheur. La joie de Dieu au sujet des pécheurs. Vous savez, il est toujours difficile de parler de Dieu quand il faut le décrire comme touché par des émotions. Parce que nous avons été élevés dans l'idée que le Seigneur est au-dessus des émotions, hein, que ce soit des douleurs ou que ce soit des plaisirs. Par exemple, bien, on est sûr que Dieu ne peut pas souffrir, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien, nous voyons que c'est loin d'être évident et d'être vrai. Ainsi, avant le déluge, nous lisons « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Hein ». C'est dans Genèse chapitre 6 au verset 6. Il n'y a-t-il pas de signification dans le propre langage du Seigneur? Dans le psaume 95 au verset 10, par exemple, Dieu dit « Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût ». Et l'Écriture nous dit aussi qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Hein, donc, vous voyez bien les sentiments qui sont là. Hein. Alors, c'est pas sans signification qu'il l'est, mais pour ma part, eh bien, moi, je me réjouis d'adorer un Dieu vivant parce qu'il est vivant et parce qu'il peut être attristé et parce qu'il peut être surtout réjoui. Alléluia. Vous savez, il y a bien des passages qui parlent de la joie de Dieu sur son peuple. Dans Deutéronome 30, verset 9, par exemple, vous lisez « Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Au Ésaïe 62, verset 5, « Et comme le fiancé fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Amen. Hein. Ou dans Isaïe 65, verset 19, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. » Ou encore dans Agée, chapitre 1, verset 8, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Notre Dieu est pour l'éternité le Dieu suprême et le Dieu béni. Mais nous pouvons aussi penser à lui comme le Dieu bienheureux et béni. Et c'est un fait réel, et ce n'est pas une parabole, c'est qu'il se réjouit du retour et de la repentance du pécheur. Amen. Amen. Alors, maintenant, voyons plusieurs points à ce sujet. Déjà, en premier, nous voyons que chaque créature manifeste sa joie selon sa nature, hein, selon ce qu'elle est. Donc, et elle cherche des moyens de manifester cette joie des moyens qui lui conviennent. Hein. Ainsi en est-il des hommes. Lorsque les anciens Romains célébraient un triomphe parce qu'un de leurs généraux avait remporté des victoires en Afrique ou en revenait de Grèce ou d'Asie avec les dépouilles de longues campagnes, comment est-ce que les Romains exprimaient leur joie? Eh bien, par des animaux qui se massacraient dans l'arène, hein, ou par des combats de gladiateurs qui parfois mouraient par milliers. Hein, donc, la cruauté à grande échelle, c'était le moyen par lequel ils exprimaient la joie de leur cœur endurci. Ça, c'était hélas une réalité. Regardez l'homme qui est satisfait de lui. Hein, il a réussi dans les affaires, ou il a réussi ce qu'on appelle un coup fumant, ou je ne sais pas, ou il y a un événement qui s'est passé dans sa famille et qui le rend joyeux. Est-ce qu'il va plier le genou devant son Dieu pour le remercier? Est-ce qu'il va entonner un hymne de louange? Ah non, bien plutôt, il va lever son verre bien rempli. Hein, c'est plutôt comme ça que ça se passe habituellement. Et quand ils seront tous ivres, lui et ses amis, et peut-être même parfois ivres morts, alors ils auront exprimé leur joie. Hein, des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, vous savez. Il y a beaucoup qui fonctionnent comme ça dans notre pays. Hein. Et ainsi, ceux qui sont sensuels expriment leur joie d'une façon sensuelle. Maintenant donc, Dieu qui est bon, Dieu dont la nature est amour, lorsqu'il a de la joie, il l'exprime par la miséricorde, il l'exprime dans la bonté et il l'exprime dans la grâce. Et la joie du Père dans notre passage se montre dans le plein pardon qui est accordé, se montre dans la manifestation de cet amour parfait, se montre dans le don de la meilleure robe, de l'anneau, des sandales et du festin joyeux qui vont remplir la maison d'allégresse. Amen. Voilà, première chose. Ensuite, une deuxième chose qu'on peut dire à ce sujet, c'est que les hommes manifestent souvent leur joie quand même par de la bonté. Hein. Lorsque, dans les anciens temps, les rois, par exemple, revenaient d'une grande victoire, alors les fontaines publiques étaient remplies de vin, des tables étaient dressées dans les rues, et tous les habitants, du plus grand au plus petit, pouvaient manger et boire à satiété. Hein. Dans les temps de fête, dans les périodes de Noël, au mariage, et autrefois aussi au moment des récoltes, mais les hommes exprimaient leur reconnaissance, exprimaient leur bonté par des dons généreux, par des invitations à des festins. Et le Père, dans cette parabole, qui montre cette grande bonté, est une image de la façon dont le Père Céleste veut montrer cette grande bonté, manifester sa joie pour les pécheurs qui se repentent, donc par la façon dont il s'occupe d'eux pour les bénir. Amen. Et ainsi considérer cette bonté de Dieu qui est ainsi manifestée. Hein. Voilà, chassant leurs péchés comme un nuage et leurs iniquités comme une nuée épaisse. Il les rend justes par l'œuvre de Christ. Il les soulage et les guérit de leurs souffrances. Il les revêt de son Saint-Esprit. Il manifeste sa bonté, son amour ainsi. Nous voyons qu'il les régénère, il les renouvelle. Il les fortifie et les réconforte. Il les illumine, il les guide. Il les purifie, il les sanctifie, il les protège, il les secourt. Alléluia. Et on voit ainsi toutes ces manifestations de la bonté de Dieu envers les pécheurs repentants. Et ce sont là, évidemment, des preuves puissantes de ce que son âme se réjouit profondément du salut des hommes. Amen. Amen. Et puis une troisième chose qu'on peut voir encore, c'est que dans les temps de joie, les hommes manifestent généralement leur bonté d'une façon particulière. Lorsque l'événement qui cause la joie se produit, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va sortir la bonne bouteille qui était réservée, qu'on avait gardée pour semblable occasion. On prépare des plats exceptionnels. Hein, c'est ça qui se passe. Et c'est pour cela qu'il est dit, apportez vite la plus belle robe. Vous l'avez vu au verset 22. Hein, ça nous laisse comprendre qu'elle était réservée, qu'elle avait été réservée, qu'elle a été mise de côté jusqu'à ce moment-là dans la garde-robe, seulement pour être sortie dans une occasion très particulière. Hein. Et puis, il faut de la viande pour le banquet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher n'importe quel animal dans le troupeau? Non, 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 pas du tout. Hein. On va aller chercher le veau gras qui est resté à l'étable, celui qu'on a engraissé, celui qu'on a bien nourri et qu'on a réservé pour la fête. Hein. C'est ça qu'on va faire. Et quand Dieu bénit un pécheur, il lui montre sa joie en lui accordant les trésors précieux de l'amour divin, de l'amour éternel. Le meilleur qui puisse lui convenir, sera pour lui, alléluia, ou pour elle, alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas nous donner, vous savez, des croûtons moisis ou de l'eau croupie hein, pour nous nourrir. Mais il veut nous donner le meilleur, béni soit son nom. Et c'est pour cela, il est tellement avantageux pour nous de venir à lui. Amen. Et puis une quatrième chose qu'on peut voir aussi, nous montrons aussi notre joie en concentrant nos pensées sur l'objet de cette joie, n'est-il pas vrai ? Nous voyons cela. Quand un homme est transporté de joie, eh bien, il oublie pour un temps toute autre chose que l'objet. Il se concentre tout entier sur l'objet de sa joie. Vous voyez que David, par exemple, était tellement joyeux de pouvoir ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem qu'il est marqué qu'il dansait devant le Seigneur de toute sa force et vêtu seulement d'un éphod de lin. Il avait enlevé tous ses vêtements royaux, tous ses vêtements officiels et il songeait tellement peu à sa dignité que Michal, donc, l'a méprisé dans son cœur. Il était tellement absorbé dans l'adoration de son Seigneur, eh bien, que toute considération de ses apparences avait disparu. Et observez bien la parabole. Et imaginez que vous entendez le Père en train de dire « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons, car mon fils que voici !» était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Amen, alléluia. Hein? Et le fils seul, eh bien, est là devant les yeux du Père, et puis toute la maison doit s'adapter à lui maintenant, hein? En tout cas dans cette circonstance-là. Aujourd'hui, il ne faut penser à rien d'autre qu'au fils retrouvé. En tout cas, pour le Père, c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu agit aussi. C'est comme ça que Dieu agit avec les plus pauvres, avec les plus misérables, avec ceux qui sont dans le besoin et qui viennent à lui. Amen. Ses yeux sont sur eux et ses oreilles sont ouvertes là aussi pour entendre leurs cris. Et il pense justement au bien de ces pécheurs qui se repentent. Ou il en pense autant que s'ils étaient tout seuls dans l'univers. Il se concentre sur eux. Amen. Et c'est vrai, toi qui veux te repentir ce soir, quels efforts le Seigneur accomplit pour toi. Pour toi, le travail des circonstances, le travail des événements, pour que l'occasion favorable de ce soir puisse t'être accordée et que tu puisses ainsi te tourner vers lui. Pour toi, le travail de la parole de Dieu, le travail des témoignages qui ont été rendus, pour que tu puisses être touché dans ton cœur et que tu puisses recevoir la vie. Alléluia. Pour toi, les dons du Saint-Esprit qui sont à l'œuvre, qui agissent et qui contribuent à ton salut et à ta guérison. Et surtout, surtout pour toi. Pour toi, le Fils éternel de Dieu, un jour a été tout sanglant sur la croix pour que tu puisses être pardonné, pour qu'un jour tu puisses te retrouver dans les cieux et que tu puisses éviter la perdition éternelle. Alléluia. Lorsque vous alliez à Amsterdam, bon, c'est peut-être plus le cas maintenant parce que les moyens sont plus exactement les mêmes, mais il y a encore, il n'y a pas si longtemps, bien vous aviez de grandes roues, de grandes machines, de grandes usines, c'est des machines puissantes qui étaient là. Et toute cette puissance, pour agir sur quoi ? Pour agir sur une petite pierre de la taille d'un ongle, hein, donc pas plus grande que l'ongle de mon petit doigt, toute cette énorme machinerie pour arriver à tailler ce diamant, hein, parce que c'était des tailleurs de diamants. Hein, c'était cela, parce que c'était quelque chose évidemment de très précieux, c'est quelque chose toujours de très précieux. Et il me semble voir aussi comment Dieu met en route des circonstances énormes, considérables, mais il les fait converger, il les fait véritablement se coordonner les unes aux autres, s'engrener les unes dans les autres pour pouvoir nous amener à ses pieds, pouvoir nous amener dans la repentance, pouvoir nous amener dans la foi et pouvoir ainsi nous bénir et pour pouvoir ainsi nous sauver. Gloire à son nom, alléluia, c'est ce que le Seigneur veut faire encore, amen. Et puis nous montrons notre joie, comment encore ? Nous montrons notre joie aussi dans une rapidité de mouvement. Alors on a parlé de David, rappelez-vous, il était ainsi pour lui, il est marqué qu'il dansait devant l'arche, hein. Je ne peux pas imaginer David dans cette circonstance marchant lentement devant l'arche, hein, ou même se traînant derrière, comme ceux qui font partie d'un convoi funèbre. Hein. Ah non, ce n'était pas comme ça. Hein. Et j'ai pu noter, vous savez, la différence. Ça, c'est aussi une chose qui m'a frappé pendant tout un temps et qui toujours me réjouit. Hein. La différence qu'il y a entre ceux qui entrent dans certains lieux de culte, bon, que je ne veux pas nommer, la façon dont ils y entrent, et la façon dont les gens entrent ici. Hein. J'ai remarqué ça souvent, la différence. Hein. Il rentre dans ces lieux de culte, vous savez, avec un air compassé, avec vraiment, on en sait pas, c'est un air sombre parfois, et puis il rentre comme cela. Alors qu'ici, je m'aperçois qu'il y a des gens qui rentrent comme des pies qui jacassent là au milieu, puis qu'ils sautillent presque en entrant dans cet endroit. Hein. Pourquoi ? Parce que ce lieu de notre joyeux rassemblement, eh bien, c'est pas une prison religieuse, hein, mais... C'est le banquet où le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Alors, on peut se réjouir en lui. Et quand quelqu'un est joyeux, eh bien, soyez persuadés qu'il va le montrer aussi par sa rapidité de mouvement. Écoutez le Père. Écoutez le Père, il dit, apportez vite la plus belle robe et remettez-la lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et amenez le veau gras et mangeons et réjouissons-nous. Aussi vite il prononce ses paroles les unes après les autres, et aussi vite il faudrait que ce soit fait. Hein. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'intervalle entre ses commandements. Est-ce qu'il aurait pas pu dire, bon écoutez, alors apportez bon la plus belle robe, d'accord, mettez-la lui. Maintenant on va se reposer un peu quand même, hein, de façon à préparer la prochaine étape. Bon, hein, maintenant, dans une heure, bon, voilà, on va ou demain peut-être, nous lui mettrons l'anneau au doigt. Voilà. Et quelques temps plus tard, nous mettrons des chaussures à ses pieds. Il vaut mieux qu'il n'ait peut-être pas de chaussures pour l'instant, parce qu'il pourrait peut-être se sauver encore de nouveau. Hein, peut-être, voilà. Et pour le festin, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre encore quelques jours, quand nous serons sûrs que sa repentance est sincère et véritable. Eh ben, c'est pas comme ça. Hein. Vous voyez bien que c'est pas comme ça que ça se fait. Hein. Non, le cœur du Père est trop joyeux. On le voit, et il doit bénir son garçon immédiatement, sans tarder, et amonceler sur lui ses bienfaits, et lui accorder successivement et rapidement tous ses actes d'amour. Et vous savez, quand le Seigneur reçoit un pécheur, en quelques instants, celui-ci est purifié du péché. En quelques instants, eh bien, il est habillé, il est orné, il est prêt pour le service. Alléluia. Souvenez-vous de l'attitude du Seigneur à l'égard du brigand repentant qui est là sur la croix. Hein. Le gars se repent. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur ? Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, sans plus tarder. Hein. Aujourd'hui même. Hein. L'amour et la joie sont toujours rapides. Et le Seigneur manifeste cela. Et Dieu est lent à la colère, nous le savons. Mais nous voyons que sa bonté et sa grâce débordent comme un torrent qui jaillit et qui coule avec abondance et avec rapidité. Amen. Amen. Et puis la joie du Père aussi s'est manifestée, un dernier point à ce sujet, s'est manifestée par les paroles qu'il a prononcées. Vous savez, il est difficile à des hommes joyeux de retenir leur langue. C'est vrai que quand vous êtes heureux, eh bien, il faut que vous puissiez, je pense, en parler avec quelqu'un. Hein, c'est quelque chose, il exprime sa joie, et nous voyons comment il dit cela. C'est très simple et c'est très beau. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Voyez comment il parle. C'est très simple, mais c'est de la poésie, vous savez. En hébreu, en fait, ça correspond à un rythme poétique. C'est-à-dire que la poésie hébraïque, vous avez un aspect de la poésie hébraïque qui consiste donc en un parallélisme dans une répétition du sens d'une partie des mots. Et ainsi donc, ces deux lignes qui font la paire l'une avec l'autre, hein, donc ça constitue un vers de poésie hébraïque. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et vous savez, quand les hommes sont joyeux, ils parlent justement, ils parlent naturellement, ils parlent simplement, ils disent toujours les choses de la bonne manière, alléluia. Et ça fait, c'est vrai, comme le Père l'a fait là, ça fait une poésie naturelle. Il aurait pu dire simplement, il est perdu, mais il est retrouvé, il aurait juste pu dire ça, mais non. Vous savez, quand vous avez un bon morceau dans la bouche, eh ben vous le roulez hein, sous votre langue. Hein. Eh ben voilà, ben c'est ça. Hein. C'est exactement ce qui se passe encore. Et ainsi le Seigneur se réjouit dans les pécheurs repentants et il leur dit sa joie. Non seulement dans de nombreux passages de l'Écriture, mais il aurait pu nous informer froidement qu'il veut nous sauver. Hein. Mais ce n'est pas comme cela. Nous voyons que toute sa parole est remplie de cette joie merveilleuse du salut du pécheur. Amen. Et cette joie du Seigneur, eh bien, ça devrait donner à tout homme une grande confiance pour venir à lui en Jésus-Christ. Parce que si vous êtes heureux, combien vous seriez heureux d'être sauvé. Et en plus, eh bien, évidemment, il sera heureux de vous sauver également. Et c'est pour cela qu'il est important de venir à lui sans remettre à plus tard. Amen. Et nous parlons encore, malgré tout, de la joie du pécheur. Hein, c'était notre plus grand chapitre, là, maintenant. On va parler du suivant, la joie du pécheur. Ça ne nous est pas dit qu'il a exprimé sa joie en paroles, mais il a dû la ressentir, évidemment, d'autant plus. Certainement était-il tellement ému qu'il ne pouvait pas prononcer de paroles, hein, mais ses yeux devaient parler pour lui, et son père le comprenait bien. Hein. Quand il a enfilé la robe et l'anneau et les chaussures, il devait certainement être trop bouleversé pour parler sur le coup. Hein, il a dû même pleurer, je pense, pleurer à chaudes larmes, mais pas des larmes de chagrin, évidemment. Hein, ce sont des larmes de douce, des larmes de joie, hein, qui sont comme la rosée du matin. Et quelles sont les choses qui ont réjoui ce fils et qui ont fait que sa joie, à lui aussi, a véritablement coulé et débordé? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a eu cette robe qu'il a revêtue, la robe d'un fils, et d'un fils bien-aimé et accepté. Ça répond à sa confession. « Père, j'ai péché. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Tous ces péchés sont couverts. La robe qui nous couvre. Nous sommes couverts par la justice de Christ. Alléluia. Hein ? Ses vêtements étaient en haillons. Cette robe va cacher ses haillons. Et de la même façon, notre propre justice, elle est souillée. Elle est en haillons aussi. Hein, et il est important qu'elle soit ôtée, bien sûr, et puis que nous soyons revêtus de la justice de Christ. C'est ce qui se produit pour le pécheur repentant. Et celui-ci, donc, était rétabli dans ses privilèges, il était rétabli dans les bénédictions, ça veut dire qu'il ne devait pas rester en haillons. Il devait maintenant porter des vêtements qui correspondaient à sa position. De plus, il allait y avoir un festin, il ne pouvait pas rester en vêtements déchirés à ce festin-là. Donc, ça veut dire que la plus belle robe était là pour qu'il puisse tenir sa place au banquet. Et pour toutes ces raisons, celui qui est pardonné par Christ doit aussi être revêtu du vêtement du salut. Amen. Amen. Et puis, vous avez l'anneau, c'est la deuxième raison de sa joie. Hein. L'anneau du sceau, donc, qui conférait de grands privilèges à celui qui le portait. Hein, ça servait en quelque sorte de signature. Si vous portiez l'anneau d'un homme riche et puissant qui vous avait confié cet anneau, eh bien, ça vous donnait autant d'autorité et de richesse que cet homme-là. Et là encore, c'est une réponse à un autre aspect, un autre point de sa confession. Lorsqu'il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », « Mettez-lui un anneau au doigt », est-il marqué. Le cadeau correspond à sa confession. Avec l'anneau, eh bien, vient l'autorité. Eh oui, c'est vrai. Et quand on vient au Seigneur, quand on se repent, le Seigneur nous donne l'autorité. Il nous donne l'autorité sur nos mauvaises passions. Il nous donne l'autorité sur le péché. Il nous donne l'autorité sur les puissances mauvaises. C'est vrai. Hein, il nous donne l'autorité aussi dans la prière. Il donne l'autorité dans toute souffrance, dans toute maladie, par la foi. Hein. Et le sceau du Saint-Esprit est là sur notre cœur. Et c'est la mise à disposition par la foi, par la gloire de Dieu, de toutes les richesses incompréhensibles au Christ. Amen. Amen. Une troisième raison de sa joie, c'est qu'ils ont mis des chaussures à ses pieds. Ah, il devait avoir usé les siennes depuis longtemps. Hein, donc, en Orient, vous savez, à cette époque-là, en tout cas, les serviteurs n'usaient pas leurs sandales à la maison d'habitude. En tout cas, pas dans les meilleures pièces de la maison. Et le maître de la maison, le fils, eux, portent les sandales, mais pas les serviteurs. De sorte que cet ordre fut une réponse à la dernière partie de la prière de ce fils repentant. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes ouvriers, comme l'un de tes serviteurs. Non, dit le Père. Et il fait mettre des chaussures à ses pieds. Voyez-vous, hein, donc, et ainsi ce fils était en même temps chaussé, je dirais, quelque part pour le service de son père, et il pouvait maintenant accomplir les ordres de son père, il pouvait travailler maintenant dans le champ de son père, il être au service de son et être à ce moment-là dans la pleine approbation, dans le plein soutien de son père pour travailler pour lui. Et c'était aussi la chose la plus merveilleuse et la plus réjouissante qui soit. Amen. Et puis, il est temps de parler, enfin, de la joie des serviteurs, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Donc, ils furent heureux et joyeux parce qu'il nous a expliqué que la musique et les chants, les danses qui étaient entendues, c'est au verset 25, on n'a pas lu le passage, mais c'est lorsque le frère aîné arrive, eh bien, cette musique, ces chants, tout ça, ça ne venait évidemment pas d'une seule personne. Ils étaient nombreux, donc, tous ceux auxquels son père a donné ses commandements. Et je dirais que la joie de ceux qui servent le Seigneur quand les pécheurs se repentent, elle aussi, elle a plusieurs raisons. Déjà, ils ont de la joie à cause de la joie du Père. Hein. Donc, de bons serviteurs sont toujours heureux de voir le bonheur de leur maître, surtout bien sûr quand c'est le meilleur des maîtres, hein, comme c'est leur cas. Et le serviteur est allé voir le frère aîné, on le voit au verset 27, et il a plaidé avec lui. Il était du même avis que le père, ce serviteur-là, on le voit. Hein. Et c'est à cela aussi qu'on reconnaît tout fidèle serviteur ou servante de Dieu. C'est donc à cette joie qu'il a lorsque le Seigneur se réjouit. Eh bien, il ne peut pas faire autrement que de se réjouir également. Amen. Et puis, ils ont eu de la joie aussi, bien sûr, à cause du Fils et avec le Fils. Hein, donc, ensuite, ils se sont réjouis de le voir revenu. Ils se sont réjouis de le voir changé. Hein, on le voit. Et ces bons serviteurs, là encore, se reconnaissent. Parce qu'ils font en quelque sorte partie de la maison. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont là depuis que le Fils est né dans cette maison-là. Ils n'ont jamais oublié ce Fils. Et c'est une grande joie pour eux lorsqu'ils voient donc ce prodigue qui revient. Et de la même façon pour les pécheurs repentants, amen. Il y a une joie merveilleuse lorsqu'il y a une vraie repentance et un vrai changement. Alléluia. Et ils se réjouirent beaucoup quand ils furent en quelque sorte les intervenants du Père pour la bénédiction du Fils. On le voit, hein. Eux, ceux qui ont été invités à apporter la robe, le Père aurait pu le faire lui-même. Mais non. Il leur laisse ce plaisir. Il leur laisse cet avantage. Et ce soir encore, eh bien la robe vous est apportée. Et combien de fois cette robe de la justice en Christ, ce vêtement de salut a été apporté. Mais est-ce que vous avez voulu l'endosser jusqu'à présent? Voilà la grande question. Est-ce que vous avez voulu recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez voulu recevoir le don précieux du Seigneur dans votre cœur? C'est cela qui est important. C'est cela qui est primordial. Et quelle joie ce serait si parmi nous ce soir, il en était plusieurs qui se tournaient vers le Seigneur. Amen, alléluia. Et on pourrait parler ainsi des autres éléments, des autres cadeaux, des autres ordres du Père qui ont été réalisés, qui ont été accomplis, et manifester ainsi combien le Seigneur est celui qui désire accueillir les siens, qui désire les sauver, qui désire les visiter et qui désire les bénir. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Amen, amen. Te remercions, Seigneur, de ce que maintenant encore, tu es celui qui touche les cœurs et tu es celui qui sauve. Tu es encore celui qui accueille. Tu es celui qui désire véritablement mettre dans nos cœurs la joie céleste, la joie glorieuse, la joie du ciel, Seigneur. Tu désires vraiment nous en faire bénéficier. Lorsque nous voyons combien les hommes sont dans la méfiance, combien ils sont dans la tristesse, combien ils sont dans l'abattement, combien ils sont dans l'inquiétude, combien ils sont là dans toutes sortes de situations, à jeter des regards à gauche et à droite, sans savoir comment ils vont pouvoir continuer leur chemin, continuer leur vie. Eh bien Seigneur, merci, parce que ceux qui se confient en toi peuvent relever la tête et avoir un visage réjoui, Seigneur, et être dans ta paix et être dans ta joie. Et merci parce que tu veux agir dans leur cœur et leur vie pour cela. Merci parce que tu reçois le pécheur repentant. Et merci parce que ce soir encore, tu le reçois, Seigneur. Et tu manifestes ton amour et ta grâce à son égard. Et nous te louons et te bénissons. Merci, Seigneur notre Dieu. Amen, Jésus-Louis, alléluia. Donc nous restons dans le recueillement. Y a-t-il quelqu'un qui veuille se tourner vers ce Seigneur ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veuille véritablement se repentir et se confier dans son Dieu? Le recevoir comme son sauveur, le recevoir comme son Seigneur, qu'elle lève sa main encore à cet instant, pour que cette œuvre puisse se faire encore dans son âme et dans sa vie. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions. C'est toi qui vois, c'est toi qui bénis, Seigneur. C'est toi qui sauves encore et qui agis en faveur de ses bien-aimés. lui. Chacun et chacune pour sa part, Jésus. Pose ta main puissante sur ses vies, Jésus. Alléluia. Interviens encore, Seigneur, dans ton grand amour. Merci, notre Dieu. Nous nous confions en toi et en ton bon secours, Seigneur. Nous te bénissons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, et avant ça, je vous rappelle juste quelques petites annonces. La reprise de l'évangélisation dans les villages, c'est demain après-midi à 14h30. Le culte, dimanche à 8h30, puis à 10h45. On peut s'inscrire sans tarder, c'est maintenant sur le site ou par téléphone. Questions-réponses bibliques, le mercredi à 19h15. Réunion de prière, donc à la suite, le mercredi à 20h15. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.